Non,
Oui, c'est
regarde.
bon. Si, c'est bon. Voilà, mais Béatrice,
Voilà.
alors on t'a présenté, on t'a déjà présenté hein, à l'écrit, donc tu es linguiste, hein, donc au CREM, donc au Centre de recherche sur les médiations, et puis surtout tu es membre du CHAHU et tu travailles depuis longtemps hein, sur ces questions de genre, hein, de discrimination, de violence verbale, tu travailles sur les discours de haine. Donc bon, sans tarder, hein, on te laisse la parole.
Je vais peut-être expliquer. Oui, voilà, je vais me présenter moi rapidement sur
Oui.
comment j'en suis venue à travailler là-dessus, surtout. Oui, donc je suis linguiste, je suis en sciences du langage et disons que je travaille depuis longtemps aussi dans la dimension sur la dimension interculturelle. J'ai commencé par ça en FLE et donc sur la construction aussi des représentations à travers le langage. C'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Et c'est comme ça que j'en suis venue à faire une forme de fusion en travaillant aussi beaucoup sur la violence verbale et les montées en tension, les discours de haine depuis une vingtaine d'années avec un groupe de collègues. Au début, on était un groupe de quatre femmes et puis quatre chercheuses, et puis ça s'est augmenté. Et là, maintenant, c'est un projet européen qui est coordonné par Julien Longhi sur les narrative speech. Les extrêmes narrative speeches. Et là-dedans, moi, je coordonne un work package qui s'appelle Médiation et remédiation, qui va porter essentiellement sur les questions de genre et la manière justement de déconstruire ou de reconstruire plus exactement les discours en partant vraiment au niveau éducatif premier, donc dans les collèges, dans les lycées. Donc, l'objectif, c'est d'avoir. Pas un kit, mais des formations et des retours. Et il y a une thèse de doctorat qui va être financée là-dessus. Donc voilà, donc tout ça va commencer en septembre. Donc je suis aussi en recherche de profils de futurs doctorants pour travailler là-dessus, je le dis en passant. Et en plus, avec l'âge qui vient et l'expertise qui vient aussi sur ces questions, je me suis dit que j'avais envie plus que de faire des conférences à droite, à gauche, d'être dans une transmission, une retransmission de des travaux que j'ai faits pour que ça serve, parce que je trouve que ce qu'on fait a vocation aussi à être utilisé publiquement, des fonctionnaires, etc. Bref. Et du coup, j'ai proposé aussi une formation, et normalement, ça devrait se faire là, au deuxième trimestre, auprès des inspecteurs et inspectrices d'académie et pédagogiques, etc. Donc, ça fait à peu près en gros 200 personnes dans l'Académie de Versailles sur ces questions, avec aussi la contribution de quelques profs de lettres qui travaillent sur les textes anciens, sur ces questions. Donc, ça devrait donner une intervention de 2 heures. Voilà. Mais donc, voilà, je propose des choses un petit peu aussi dans cette idée de formative et transmissive. C'est devenu quelque chose un peu de prioritaire. Donc, voilà, je le fais dans un esprit assez simple. Et en l'occurrence, pour revenir un petit peu sur mon expérience, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la question, on va dire bizarrement, entre 2007 et 2008, à la fois parce que j'avais des étudiants qui se destinaient à être professeurs de langue étrangère en didactique des langues, en master didactique des langues, et qui se posaient la question de comment enseigner le féminin, parce que dans les manuels, ce n'était pas du tout clair, les histoires de féminisation, etc. Donc, c'était des questions qui revenaient de manière récurrente. Il y avait ça, et puis il y a eu aussi le débat, enfin, Ségolène Royal était la première à se retrouver au second tour, et le débat qui s'en est suivi, que j'ai analysé, et où j'ai identifié des rapports de genre, pour moi, assez clairs dans la manière dont ça se passait. Donc là-dessus, j'ai fait une publication où j'ai défini ce que j'ai appelé d'abord l'attaque courtoise dans une dimension genrée, et après qu'on a retravaillé en 2015 avec Christina Romain pour l'ouvrir plus sur la dimension politique et pas juste genrée, dans le fait que pour être crédible, il faut rester courtois en politique parce que si on insulte, ça ne marche pas. Et ce qui s'est confirmé aussi un petit peu dans le débat Le Pen-Macron. J'ai aussi travaillé grâce aussi à un travail fait avec Christophe et d'autres collègues de Nancy sur la retranscription du débat qui a été très utile pour pour l'article que j'ai écrit ensuite. Et donc voilà, donc ça, c'était très progressif et à chaque fois je me suis saisie de faits d'actualité. Donc par exemple en 2011, il y a eu toute la campagne Mademoiselle la case en trop menée par les chiennes de garde, par Mixité, etc. Et je me suis aussi saisie de ça parce que je trouvais que c'était pas compris du tout dans les débats. On confondait l'oral et l'écrit, les adresses orales en Mademoiselle et donc enfin tout ce que racontaient les gens à la télévision, dans les débats, c'était à mourir de peine. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un petit historique de tout ça, donc pour aussi fonder les choses. Donc, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait un article. Et ensuite, il y a eu le mariage pour tous. Et là, c'était un peu pareil. Donc, pourquoi le mariage pour tous ? Déjà, pourquoi pas pour toutes aussi, hein ? C'est un peu bizarre. Pourquoi un second mariage ? Et puis la réutilisation, toute la question de la réutilisation de ce terme par la manif pour tous, ce qui brouillait les pistes. Donc là aussi, un questionnement sur la pertinence des mots, de la manipulation des mots, de la citation et de comment les gens créent leur propre représentation et plaquer des espèces de jugements axiologiques sur des choses où il n'y en avait pas. A priori. Et voilà, donc là aussi, j'ai fait un article sur Manif pour tous et Mariage pour tous, pour essayer de démêler un petit peu les brouillages de pistes. Et finalement, ça s'est construit progressivement, autour aussi de mon intérêt pour les actes de langage et de la dimension performative du langage, et la question de l'adresse. Donc ça s'est construit plus récemment. Alors, j'ai une commande de Jacques Walter que, au début, j'ai vraiment regretté d'avoir accepté parce que ça m'a demandé un travail de dingue la première année de délégation, qui n'était pas prévu pour travailler là-dessus. Mais donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur l'article du Publictionnaire Signes religieux que j'ai fait parce que je m'étais engagée et que donc j'ai respecté mon engagement, mais avec beaucoup de temps et de sueur. En plus, ça touchait des points qui étaient un petit peu sensibles, comme le voile ou les choses comme ça. Donc, il ne fallait pas non plus que ce soit n'importe comment. Il y avait quand même eu Samuel Paty entre-temps aussi, juste avant, au moment de la commande. Donc, j'étais pas très tranquille. Donc, ça m'a pris du temps. Et en fait, en travaillant sur cet article du Publictionnaire, je me suis aperçue, parce que j'ai travaillé sur les lois, ça, c'est ce sur quoi je me suis mise à travailler de plus en plus. Je pourrais vous montrer après un petit peu deux, trois trucs, mais c'est ce qu'on appelle de manière plus récente les Legal Consciousness Studies, qui sont en fait l'idée que le droit est ancré aussi dans des pratiques du quotidien, bon, enfin, pour le dire très très vite. Mais donc cette perspective-là fait que je me suis vraiment posé des questions globales en termes de ce qu'on appelle jury linguistique ou forensic linguistics sur ce que, le droit fait au quotidien et le quotidien fait au droit, pour le dire un peu vite. Et donc, dans cet article sur les signes religieux, j'ai remonté la piste là aussi des différentes lois partant de 1905, en me demandant pourquoi il y avait cette demande de nouvelles lois. Je ne sais même plus le nom qu'on lui avait donné maintenant, c'est un trou, sur les communautarismes. Je ne sais plus. Enfin bon, bref, cette volonté de faire une nouvelle loi alors que tout était déjà dans la loi de 1905. Et globalement, ce que je finis par dire à la fin de ce petit article du Publictionnaire, c'est que ça tourne souvent. Il y a un certain nombre de lois qui tournent autour du contrôle du corps des femmes, finalement, et que ce soit sur leur manière de s'habiller, leur manière de faire des enfants, leur manière d'être femme, d'être mariée ou d'avoir des relations sexuelles, madame, mademoiselle. Donc finalement, il y a vraiment un enjeu qui est le corps des femmes, derrière le langage aussi et derrière le droit. Et tout ce qui se passe. Et je creuse cette question avec d'autres en parallèle parce que c'est un corpus très très riche. depuis 2 ans. C'était l'objet de ma délégation. Et je n'ai pas encore fait la publication que je souhaite, qui devrait être un peu longue et ça me prend un petit peu de temps. Donc, j'ai fait 28 entretiens avec des mères lesbiennes qui se sont mariées pour adopter l'enfant de leur conjointe. Ça, c'est le cadre absolu dans lequel j'ai fait ces entretiens. C'était les conditions nécessaires. Et à travers ces entretiens, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement toutes les questions d'adresse, de dénomination, comment on appelle, comment on choisit d'appeler ces enfants, quel nom on décide de leur donner pour les inscrire d'une manière performative dans une lignée biologique, mais aussi non biologique. Donc, construire une famille à travers les noms, les appellatifs, comment ils appellent la mère non biologique, comment ils appellent les grands-parents, comment la famille appelle les mères, etc., comment elle les reconnaît à travers des discours et comment surtout les institutions les reconnaissent. Et par exemple, et c'est pour ça que je dis toujours que je fais la chasse aux formulaires, parce que les formulaires sont une forme d'évidenciation des difficultés qu'on a au quotidien pour faire passer les lois. Il y a quelque temps, un an ou deux, là je ne sais plus, mais j'ai fait une copie d'écran. Par exemple, pour refaire faire un passeport ou une carte d'identité, vous pouvez faire tout un processus en ligne, mais c'est toujours père et mère. Donc, s'il y a deux pères ou deux mères, comment font les gens? Enfin, ça fait partie de ces éléments un petit peu étonnants qui font qu'il y a des formulaires qui ne sont toujours pas adaptés alors que c'est sur les sites du gouvernement au bout de 7 ans après la loi, après le vote de la loi, entre autres. C'est un des exemples parmi d'autres. Mais c'est la même chose. J'en ai quelques-uns à vous montrer éventuellement sur formulaire pour prendre un rendez-vous chez un dentiste qui va dire nom de jeune fille, nom du patient, nom de jeune fille. Donc c'est assez étonnant parce que ça ne m'appelle pas la patiente. Enfin bon, c'est juste, il n'y a pas de nom de naissance, il n'y a pas de. Donc tout ce qui a été acté en fait en termes de loi, l'usage résiste absolument à ça, y compris les usages administratifs. Et donc c'est un problème parce que ça crée des paradoxes, ça crée aussi des messages contradictoires. Un peu sur le même plan finalement que ce que fait, même si ça, on dirait qu'il n'y a pas de lien, mais il y en a, l'Académie française en donnant certaines indications, alors qu'il n'y ait pas du tout de légitimité. C'est une institution qui n'a aucune légitimité à dire des choses sur la langue, fondamentalement, et qui en donne et qu'on suit. Hein, je veux dire, appeler la Covid parce qu'une académicienne a dit qu'il fallait l'appeler comme ça. Enfin, c'est juste épouvantable. Voilà, c'est la féminisation d'une maladie mortelle. Ça m'a toujours dérangée. Mais qui est un virus. Bref, voilà. Donc ça, c'est un exemple annexe. Donc sur ce corpus de 28 entretiens, c'est un peu ce qui ressort. Il y a ça. Il y a aussi ce que ça veut dire d'être une femme mariée dans l'absolu. C'est ça qui m'intéressait au départ. C'est-à-dire que ces femmes sont mariées, et donc qu'est-ce que ça révèle de femmes mariées, administrativement, institutionnellement, sur ce que veut dire le mariage. Donc évidemment avec beaucoup de micmac au niveau là aussi institutionnel, où les institutions ne comprennent pas qu'il y en a une qui n'est pas un homme mais une femme, parce qu'il y a des enfants, et donc c'est compliqué pour l'institution de faire un lien des fois. Voilà, enfin tout un tas d'exemples autour de ça. Donc j'en suis arrivée à ça. J'ai travaillé un peu sur tous ces corpus se retrouvent un petit peu dans l'article de Corella, qui est une espèce de synthèse de tout ce que j'ai fait depuis justement 2008 et de toutes les réflexions qui ont convergé. Donc c'est un petit peu un condensé d'un ouvrage que je voudrais écrire en gros, on va dire. Et qui va dans le sens de dire le langage, c'est la base, et le langage construit des représentations aussi sociales en fonction de la manière dont on présente les choses. C'est pas les mêmes représentations qui vont arriver. C'est toujours la question de la compréhension de ce qui est entendu, de ce qui est compris, de ce qui est restitué, de ce qui circule ensuite. Et du coup, c'est comme ça qu'on rentre dans ce que j'ai appelé un système discursif de discrimination, c'est-à-dire qu'il y a une construction langagière, verbale, de représentation qui vient dans un sens discriminant. Donc, j'ai pris comme exemple, parce que c'est ce qui m'a sauté à la figure en devenant professeur à l'Université de Lorraine. Après, quand j'étais maîtresse de conférence, bon, ça ne se percevait pas trop. Mais dès l'instant où on a des responsabilités, on en a parlé avec Marie, avec d'autres, femmes en l'occurrence, et qu'on se retrouve présidente de commission, de jury, de commission de recrutement, de tout, de jury de thèse, qu'on est directrice de thèse et qu'on passe sa vie à corriger, enfin, il y en a qui ne le font pas, mais moi je le fais systématiquement, à corriger directeur en directrice, président en présidente, à féminiser, etc., et à voir que ce qui est quelque chose de tout à fait banal, la féminisation juste des noms de métiers ou des fonctions, et quand il y a des féminins en plus qui existent, qui ne sont pas des trucs hallucinants, il ne s'agit pas de dire une témouine, comme le proposait par ailleurs « Femme, j'écris ton nom » en 1998, mais donc c'est des choses assez simples, hein, directrice, présidente, bah c'est toujours pas le cas. Donc c'est aussi là-dessus que j'ai un peu titillé notre propre institution qui est l'Université de Lorraine. Parce que quand j'ai présidé le COS de recrutement, c'était une maîtresse de conférence qui a été élue, donc j'avais refait une demande officielle aux ressources humaines. Je l'ai faite régulièrement, plusieurs fois, et on m'avait répondu que c'était long de changer les logiciels, et puis bon, bah, c'était toujours pas fait récemment. Voilà, donc de fatigue, on s'aperçoit que finalement, le fait de devoir répéter, recommencer sans arrêt, redemander, se défendre contre ces représentations qui créent un construit dans lequel on ne se sent pas légitime comme femme, puisque finalement, on n'est jamais adressé comme femme. Donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi c'est moi qui assume cette fonction si c'est censé être un homme qui l'assume? Et pourquoi, finalement, on me charge de faire cette tâche sans m'en donner la reconnaissance symbolique? Bah, en réalité, en travaillant avec Victoria Nilem-Ghetto et Dieter Stein, entre autres, bah, j'ai compris qu'on rentrait dans une forme de système de harcèlement. Donc, c'est là-dessus que j'ai réfléchi de manière un peu plus large, c'est-à-dire que la convergence de tous ces actes de langage qui nient la féminisation sociale, professionnelle, sociale, des titres un peu hauts, à des fonctions un peu hautes, et qui se répètent, qu'on voit à différents niveaux. Donc au départ, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement précisément là-dessus que je travaille, c'est que c'est le cumul des anecdotes, c'est le cumul des expériences et des vécus qui montrent que c'est un système, qu'on est bien dans un système et que ce système se développe après un harcèlement. C'est-à-dire que c'est exactement parce que depuis 2014, je corrige les formulaires chaque année en barrant, etc., que je peux dire que ça finit par être, par moi, ressenti comme du harcèlement. Voilà, c'est ce principe de répétition et le fait de fermer les yeux ne fait pas que le harcèlement disparaît. Ça fait juste que c'est invisibilisé et que les personnes encaissent. Donc, c'est assez intéressant parce que pour moi, ce n'est pas de l'ordre du visible premier, puisqu'on a l'habitude, il y a une éducation là-dessus, c'est un peu comme MeToo en fait, hein, je discutais de ça. Il y a le problème de l'éducation des hommes aussi, d'une autre génération au fur et à mesure, et de l'éducation à l'école, c'est-à-dire ce qu'on enseigne, c'est forcément après ce avec quoi on est construit, et donc ce n'est pas donné, donc il y a quelque chose à déconstruire, et quelque chose à. Il faut mettre le doigt dessus. Parce que si on ne met pas le doigt dessus, ça continue à être invisible, en fait, et à circuler. Voilà, donc ça, c'est la petite présentation un peu rapide que je voulais faire. Après, soit on discute, soit je peux vous présenter, pour aller un petit peu plus loin, un exemple, si je peux partager l'écran, je ne sais pas. Comment vous faites les ateliers en général? Je n'ai pas été très, très présente, je le regrette, je le serai beaucoup plus à partir de maintenant, c'est vrai.
Alors, peut-être que tu peux partager, il y a marqué, enfin, ça marche, l'icône partagée. Alors,
c'est où? C'est autre?
En haut, tout en haut de ton écran.
Ah oui, partagé. Non, je n'ai pas, ce n'est pas actif pour l'instant.
Alors, il faut que ce soit le... Je pense que c'est Charlotte qui doit... Ouais, exactement.
Alors, attends. Aïe. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la main sur cette affaire, parce que là, je sais bien comment il faut faire. Il faut lui...
Bah, Marie, tu dois pouvoir, du coup, si tu as réussi à lancer la caméra. À côté de Kitty.
Non, mais en fait, il faut que tu donnes l'autorisation à Béatrice, c'est-à-dire tu vas sur le nom de Béatrice, il y a des petits points en face de Béatrice, dans la liste des participants. Ton micro est éteint par ailleurs.
J'en profite pour dire quand même un truc qui m'avait vraiment frappé et qui a suscité un long message que j'ai pris la peine d'écrire à Pascal Tisserand, qui m'a pris du temps pour remettre vraiment les choses dans un cadre. Donc ce message, pour moi, il met aussi bien en place les différents éléments par rapport à l'institution. C'est que il m'avait répondu quelque chose, un premier message, que c'était de l'ordre de l'écriture inclusive, ma demande de féminisation, et que ça et que c'était très polémique et ça posait problème et que c'était délicat. Donc en fait, au titre des questions posées par l'écriture inclusive, la féminisation s'est retrouvée inclue dans l'écriture inclusive et est devenue quelque chose de délicat, ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que la base, de la base, je ne sais pas moi, enfin, pharmacien, une pharmacienne, quoi, on va dire que c'est de l'écriture inclusive, alors que c'est juste... En fait, les gens ne connaissent pas leur langue. Il y a aussi ça qui est assez frappant. C'est cette manière dont les choses deviennent confuses ou sont appropriées de manière confuse pour justement justifier idéologiquement d'autres arguments. C'est ça qui cloche.
Est-ce que tu ne penses pas que la confusion, elle est distillée à dessein, justement, pour c'est-à-dire que là tu parles du harcèlement que constitue le fait de devoir à chaque fois reféminiser et tout, mais moi j'ai une expérience, j'ai pas de haute responsabilité, j'ai été directrice de thèse une fois dans ma carrière. Et je garde toujours ici le manuscrit de thèse de mon étudiante, parce que la professeure d'université qui était le membre du jury, enfin qui était présidente de jury, m'a demandé, alors qu'on a mis en première page maîtresse de conférence, a demandé dans les corrections du manuscrit de thèse de Yumi Kitayama de changer, c'est-à-dire qu'on avait féminisé les noms, on avait marqué maîtresse de conférence, elle nous a demandé dans les corrections d'enlever ce terme-là. Donc quand tu dis, quelquefois, il y a des choses comme ça qui passent un peu inaperçues, parce qu'on a une forme de culture, mais même quand ça ne passe pas inaperçu et que tu essayes de... Enfin, que tu demandes... Enfin, voilà, nous, elle nous a demandé cette correction pour accepter le manuscrit. Ça faisait partie de ces corrections principales dans un document de 300 pages de géochimie isotopique. On n'avait rien à cirer. Enfin, c'était vraiment pas le sujet. Et elle l'a demandé.
C'est comme... Il y a eu une grosse attaque là, contre quelqu'un qui s'est présenté comme doctoresse. Alors que doctoresse, c'est en réalité, c'est une forme morphologique régulière. Professoresse, doctoresse, poétesse... Enfin, je sais pas, c'est vraiment étonnant. Mais il y a des choses qui sont étonnantes.
Oui. Je vais passer la parole à l'autre Émilie, mais juste pour dire, ce qui est toujours, mais on le sait, on l'a déjà dit, hein, c'est que voilà, c'est délicat. Bon. Mais que nous, moi sur sur mes formulaires, donc sur les avis de soutenance, que j'apparaisse comme Monsieur Marie Scarpa, c'est la personne. Et chaque année, Monsieur Marie Scarpa. Voilà, mais ça, c'est pas délicat.
Et tu corriges ou pas ?
Ben oui, je corrige. Mais je dois renvoyer à chaque fois. Mais ça ne trouble personne. Et ça est affiché. Affiché sur les portes, si je ne le dis pas, Monsieur. Alors en plus, avec Monsieur Marie Scarpa, directeur de thèse, bien entendu. Voilà.
Moi, je ferais bien une proposition, j'y pense depuis longtemps, hein, mais il faudrait que ce soit un truc. Alors, je ne sais pas si le chahut, ça serait intéressant pour chahuter, justement, mais je ne l'ai jamais fait parce que je ne peux pas le faire toute seule, ce n'est pas une action à faire seule, mais qui serait de, quand on est justement amené à. Et d'en faire une forme de manifeste, hein, et de prévenir qu'on va faire ça, qu'à partir de telle date, si. Tout formulaire qui n'est pas conforme au fait qu'il y a des femmes et des hommes qui signent ces PV, on refuse tous de signer, tous les gens qui sont amenés à signer. Moi, je ne signe plus si c'est directeur, je ne signe plus si c'est président, mais tout le monde, enfin.
Oui, je n'ai jamais fait.
Ça aurait un impact. Ça aurait un impact si tout le monde s'y mettait, quoi.
Ça
obligerait la fac à bouger.
La mobilisation du collectif est une, évidemment, par définition, une des lignes de force ou des lignes d'horizon de notre travail, bien sûr.
Émilie, tu voulais Émilie Velot, l'autre Émilie, avant que Béatrice reprenne avec son. Là, on voit effectivement, hein, je pense que ça, tout le monde voit hein, le partage d'écran là.
Mmh. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez, hein, je suis dans ma campagne, alors si. Je préfère couper la caméra, donc j'espère que ça va. Donc, en tout cas, merci beaucoup. J'ai lu du coup ce que nous a envoyé Charlotte aujourd'hui. J'ai vraiment pris le temps. Et puis là, la présentation en plus, c'est vraiment un très beau travail et ça fait plaisir. Voilà. Et alors, je voulais vous dire, donc, moi, je suis pharmacienne. Et je n'ai pas toujours été pharmacienne, donc j'ai repris des études pour devenir pharmacienne. Et pour ça, j'ai dû faire ce qu'on appelle une passerelle. Et je suis passée devant un grand jury de professionnels de santé, pas forcément de formation pharmaceutique. Mais à l'époque, je ne savais pas que la pharmacienne, c'était la femme du pharmacien. Donc, pendant l'oral, j'ai pas arrêté de dire le mot pharmacienne, je veux devenir pharmacienne, je veux reprendre mes études pour devenir pharmacienne. Et c'est vrai que l'ensemble du jury était gêné, voire agacé, en fait, par la posture que j'avais prise. Mais à l'époque, on était en 2018. Donc là où on commençait à parler finalement de la féminisation de certains mots et je sentais qu'il ne me faisait pas de remarques parce que c'était pas politiquement correct. Mais du coup, j'ai eu d'autres questions un petit peu plus difficiles. Enfin, ils se sont fait un peu plaisir, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai senti un peu l'agacement. Et également, j'ai participé à un MOOC. Et on était une majorité de femmes à intervenir pour ce MOOC. Et je suis la seule à l'époque, avoir mis maîtresse de conférence. Je l'avais fait plus par provocation que par usage, mais mes collègues, je voyais qu'elles étaient gênées, quoi, si vous voulez. Hein, parce que la maîtresse, on est d'accord, c'est pas bien la maîtresse, à part si elle est d'école. Voilà. Et j'avoue que là, il y a quelques jours, donc on a eu une forte communication hein, sur Facebook, LinkedIn d'Hélène Boulanger où on signe la charte On s'engage, charte d'engagement LGBT+, où finalement, peu importe l'orientation sexuelle, l'identité de genre, on veut être bien à l'UL et tout ça. Mais je me dis qu'au final, même les gens qui sont non-binaires, ils ne doivent pas se retrouver, quoi. Donc finalement, on nous promet beaucoup de choses, mais rien que la première chose finalement à laquelle on se retrouve confronté, c'est le document administratif, et il ne nous correspond pas, quoi. Donc, je sais que pour moi, c'est des fois quelque chose qui me gêne quand je dois dire « bon, ben voilà, remplissez, vous êtes un homme ou une femme, quoi ». Et ça, c'est des choses qui sont finalement, on sent des fois complètement mis de côté, quoi. Parce que si on ne s'identifie pas homme ou femme, on ne peut rien dire. Là, j'ai été invitée pour faire une publication et il fallait absolument être une femme pour pouvoir faire la publication. Alors, en décryptant un peu le truc, c'était, bon, finalement, dans les auteurs, il suffit qu'une personne s'identifie comme étant une femme. Donc, ça peut aller. Mais vous voyez, c'est des fois, on se dit « bon, ben d'accord, bon, ben allez, je repasse plus tard, quoi ». Voilà, ben merci beaucoup en tout cas.
De rien, mais c'est arrivé qu'on me dise « mais oui, et toutes les questions de choix, YEL, etc. » Et enfin, justement, les choix d'écriture divers pour marquer le non-genre. Et idéalement, c'est vrai que ça pourrait marcher, mais ça me dérange, moi, déjà à la base, que justement il n'y ait pas cette première reconnaissance dans la langue qui est là, enfin qui existe déjà, et qu'on est déjà ça, et qu'à partir de ça, on puisse créer un corps. Mais Le problème, c'est que c'est comme une stratification des étapes. Et c'est intéressant de voir aussi cette question de tous ces sujets qui remontent et de la radicalisation des positions. Hein. La loi, par exemple, qui a été proposée avec une amende terrible sur les gens qui utiliseraient l'écriture inclusive. Bon, enfin, heureusement, elle n'est pas passée, mais il y avait quand même 60 députés qui étaient prêts à faire passer ça. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment une espèce de menace terrible sur la société dès qu'on touche à ces questions de genre ou de dégenrage, d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est ouais, mais l'histoire de ce que vous racontez sur pharmacienne, enfin, ça me fait penser à l'histoire de chirurgien chirurgienne. Hein, mais les Belges, ils racontaient cette histoire en préalable de leur petit guide à la féminisation des titres et noms de métiers en 1995. Donc, et au Québec, c'était en 84 les premiers vrais guides autour de ça. Donc, on est quand même super en retard en France. Mais
la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça menace ? Parce qu'effectivement, c'est un danger de féminiser certaines fonctions et de les accepter comme pharmaciennes et pas juste comme femme de pharmacien. Ça menace réellement quelque chose.
Comme dire le président, présidente, c'est la femme du président. Mais c'est faux. En fait, c'est faux que la pharmacienne, c'est la femme du pharmacien. En réalité, c'est faux. C'est totalement... Il n'y a rien qui justifie qu'on dise ça, sinon un usage ancien.
Il y a des partages du travail professionnel et tout l'inconscient, comme tu dis, est cristallisé dans la langue. C'est une révolution symbolique, c'est ça effectivement.
Le refus de faire évoluer les usages de la langue avec l'évolution sociale des pratiques. Ce qui est totalement antinomique avec l'idée d'une langue vivante.
C'est... Il y a des enjeux d'organisation sociale qui sont mis en danger par ça. Oui. C'est pas qu'on veut pas faire évoluer la langue, c'est qu'en fait, on veut pas faire évoluer l'ordre social qui est associé à l'usage de cette langue-là. Et malgré tout ce qu'en disent des collègues qui disent « Oh ben, tu veux mettre maîtresse, on s'en fout, c'est pas joli, j'aime pas, maîtresse, c'est bizarre, le terme... » Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que ça remet en cause un espèce d'ordre social avec des rôles, des partages hommes-femmes qui sont inégalitaires. Et donc, préserver cette langue qui, pour nous, ça paraît barbare, mais en fait, ça permet de préserver une organisation sociale où les femmes sont infériorisées. Puis voilà, c'est tout. Donc, c'est...
Là, on touche à notre stratégie ou à notre militance, parce qu'effectivement, il y a l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens. Donc, c'est une histoire, comme dit l'autre, qui est transformée en inconscient professionnel et qui devient une évidence. On s'est intéressé, Marie-Christine et moi et d'autres, par exemple, au hasard de nos balades en ville, à Metz ou ailleurs, à regarder les plaques des avocats, des cabinets d'avocats. Alors, pendant 2-3 ans, enfin, c'est pas très ancien cet intérêt-là, mais il n'y avait que des avocats. Marie, Brigitte, Stéphanie et Constance étaient avocats. Et là, on a commencé, y compris à Metz, à avoir des plaques où il y a des avocats et des avocates. Donc, il y a des prises de position lexicales des professionnels et des professionnelles qui assument maintenant d'être avocates, quoi qu'elles appartiennent à un cabinet d'avocats. Enfin, pour dire qu'il y a aussi une prise de conscience ou un affichage public hein, que je m'appelle Béatrice Legrand, je suis avocate. C'est assez récent, hein. C'est empirique le relevé qu'on fait, mais voilà.
Donc, ce relevé empirique, ce serait intéressant de le faire avec une photo et une date.
Une photo,
et,
oui.
Et un lieu pour aussi. Enfin, c'est super intéressant aussi.
Rue des Clercs et rue de, je sais pas quoi, derrière les Galeries Lafayette, c'est un exemple. Hein. Il n'y a que des avocats. Même si ce sont toutes de genre féminin, elles s'affichent comme avocats, puisque, je suppose, elles estiment qu'il y a une plus-value à se désigner grammaticalement par avocat. Et vers la gare, je ne sais plus le nom de la rue, il y a un avocat qui s'appelle un cabinet TELUS ou je ne sais pas quoi, où là, il y a des avocats et des avocates. Donc, voilà, il y a aussi l'idée qu'il va y avoir des révolutions grammaticales, lexicales à l'interne d'une profession. Ce serait intéressant de les interroger parce que, voilà, elles n'estiment pas qu'il y a une moins-value à se désigner comme avocate. Enfin.
Et oui. Moi, je voulais parler au sujet de, par exemple, liberté, égalité, fraternité. C'est de l'ordre, finalement, de l'implicite. On ne se rend pas compte que fraternité, c'est la fratrie, ce n'est pas la sororité, comme les droits de l'homme et du citoyen. Et ça me fait penser à un livre de Carole Patman qui dit que derrière le contrat social, il y a aussi un contrat sexuel. Et je trouve que là, on l'entend vraiment. Et pourtant, on le dit souvent. Et on a du mal à ce que ça arrive à notre conscience parce qu'on est tellement prise dans ce système que finalement, on ne se rend pas compte. Quoi. C'est de l'ordre de l'inconscient ou de je ne sais quoi.
J'ai une amie qui milite à la Ligue des droits de l'homme. Et y a tout un débat qui n'a pas trouvé sa résolution sur faut-il ou non changer le nom de la Ligue des droits de l'homme pour inclure aussi les femmes. Alors, donc c'est très compliqué parce que ça renvoie à des débats philosophiques et finalement, quelque part, c'est la question de l'écriture même du texte fondateur qui pourrait être refondé. Mais c'est vrai que ces droits fondamentaux devraient être plus clairement. Est-ce que homme avec un grand H, ça inclut l'humanité? C'est une vraie question. Mais c'est un autre article à faire.
Pose la question, ouais. Les droits de l'homme, quand quelqu'un dit les droits de l'homme, moi je dis souvent, attends, les droits de l'homme, tu entends qui par l'homme? L'homme ou par rapport à la femme ou quoi?
Parce que bon, ça fait l'homme avec un grand H. On va te dire l'homme avec un grand H.
Oui, c'est mais ça. Alors on me dit, mais pourquoi tu poses cette question comme si ça allait de soi? Quand on le dit, je ne vois pas le grand H. Et...
C'est exactement ça.
Oui.
Pardon, Jean-Marie.
Martine, est-ce que tactiquement, c'est pas mesquin, enfin, j'espère ce que je veux dire, ni malicieux, est-ce que tactiquement, c'est pas dans le dialogue avec une locutrice qu'il faut renvoyer cette balle-là? Parce que c'est quand même les plus intéressés, a priori, à la non-négation grammaticale de leur genre. Et c'est pour ça que l'histoire des avocats, ça m'intéresse. Ce n'est pas les avocats à qui je vais dire, il faut dire avocate, c'est aux avocates qu'il faudrait discuter pourquoi on a intérêt ou ce serait intéressant de dire avocate quand on est avocate. Non, mais c'est un problème tactique. Moi, je ne suis pas politicien, c'est par rapport à soi-même, par exemple, nos propres usages, ou par rapport à celles qui... Voilà, il y a une dimension tactique dans notre collectif qu'on a jamais trop essayé d'objectiver, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Béatrice, on va te laisser continuer quand même, mais... Par où commencer la révolution, quoi.
En fait, je voudrais juste pointer là-dessus. C'est dans le sens de ce que je dis sur les représentations et le fait que le langage crée des représentations et qu'après c'est difficile de les déconstruire. C'est-à-dire que le fait même qu'on dise déclaration des droits de l'homme et que la question aujourd'hui puisse venir, comme là Martine vient de dire ou toi les questions, et montre que en fait, quand on dit ça, quelle que soit la bonne volonté qu'on y met, le spectre qui vient, c'est l'homme masculin qui est inscrit dedans. Et les femmes ont du mal à se reconnaître dans cette inscription comme légitime parce que c'est ce qu'on entend et qu'en français, il y a l'homme et la femme et il y a les humains ou l'humanité. Et que en fait, l'homme avec un grand H, ça correspond, c'est hypocrite quelque part parce que c'est ce qu'on entend, c'est ça, c'est l'homme au masculin et c'est l'homme au masculin qui avait tous les droits jusqu'à très récemment quand même. Et donc, cette déclaration des droits de l'homme était écrite pour l'homme masculin. Elle n'a jamais été écrite pour la femme au féminin. Donc, quelque part, ce serait tout à fait juste de repenser et de reproposer une écriture. Je ne sais pas comment, je ne me suis pas penchée sur la question, mais en l'occurrence, c'est une discussion que j'ai eue il y a 2 jours. Donc, c'est pour ça que ça commence à me travailler. Là, on parle aussi avec vous, mais c'est exactement cette question de le directeur ou, le président, alors que c'est une femme qui est en train de signer. Ben, la déclaration des droits de l'homme, c'est pareil en réalité. C'est le même filtre, le même masque qui fait que y a les femmes ne se sentent pas légales, légitimement, pardon, au même degré de droit, d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il y a une forme d'inconscient collectif des femmes aussi à laisser couler, à accepter, à subir, parce que c'est comme ça. C'est ça la culturation aussi. Et le réveil, entre guillemets, dans lequel on peut être, je pense qu'il est aussi vraiment lié au type d'éducation, au type d'évolution sociale qui a eu depuis la Seconde Guerre mondiale et le fait que les femmes ont assumé des rôles différents, etc., etc., etc. Mais si on remonte les droits des femmes, c'est qu'en 1960, il fallait encore l'autorisation du mari ou du père pour avoir un compte en banque, pour travailler. Moi, j'aurais pas été aimée être une femme dans cette situation, ça, c'est sûr. Mais du coup... C'est un aparté, mais ce serait intéressant d'avoir une discussion autour de ça. En tout cas, ce serait un atelier intéressant, je trouve, de travailler sur les droits de l'homme. Je veux bien travailler dessus.
Ce que tu vas dire là sur le legal consciousness, tu dis, je pense que c'est un rapport à l'articulation entre le droit écrit et les usages coutumiers qui sont articulés ou pas sur l'écrit. Parce que sauf si on... Enfin, je ne sais pas, c'est un peu... espèce de dimension épistémologique, je pense que tu vas dire que c'est dialectique et moi aussi, c'est pas le couple pharmacien-pharmacienne qui distribue sémantiquement que pharmacienne c'est la femme du pharmacien, c'est l'ordre des pharmaciens.
Ouais.
C'est-à-dire c'est un appareil idéologique professionnel qui le règle et qu'après quand ça circule proximatiquement, enfin discursivement, évidemment ça fait corps et ça produit un effet d'évidence, mais la filiation, elle est dans l'ordre des pharmaciens, ou l'ordre des médecins, ou l'ordre de la famille. Par exemple, quand on regarde là sous les yeux le carnet du monde, c'est fascinant. C'est fascinant comment l'appareil idéologique d'État familialiste fait que ce sont les familles qui sont associées dans la douleur et que Madame Legrand est née le petit. Ou plutôt, ou Madame le Petit se présente comme né le grand. Bon, donc là, c'est un idéologème qui fonctionne à plein. C'est de l'usage scriptural ritualisé, coutumier. Parce que je pense que, bon, après, c'est tellement riche ce que tu proposes et ce que tu dessines là, que. Harcèlement lexical, harcèlement familialiste, harcèlement patriarcal, harcèlement grammatical, harcèlement... je sais pas, il me semble que spécifier, ça serait intéressant aussi.
Ce qu'il y a derrière, en réalité, à chaque fois, ce qui revient, si tu mets tous ces niveaux-là, par exemple, tu dis l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, etc., mais tout ça, c'est des décisions idéologiques qui font que a priori, les femmes ne pouvaient pas l'être. Donc, voilà, c'était les hommes qui l'étaient. Ouais. Donc, c'est une progression structurale. Et ce qui est en jeu à chaque fois, si on doit spécifier, c'est l'identité et l'autonomie de la femme. Mmh. C'est tout. C'est la capacité féminine à être autonome. Et justement, c'est ce qui m'a vraiment intéressée et fascinée dans le mariage pour tous, et en particulier dans les couples de femmes mariées, l'article, le premier article que j'ai fait en 2017 n'est plus là-dessus. C'est le fait qu'en fait, ce que ça menace fondamentalement, c'est le fait que ça crée une lignée matriarcale. Ce n'est plus la transmission du nom du père ni du patrimoine, mais d'un matrimoine et du nom de la mère. Et que donc, les femmes sont autonomes, autonomes et libres dans ce mariage. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur les enchaînements de lois qui se sont faits jusqu'à là récemment. C'est-à-dire que je fais ça, j'allais en parler plus tard, mais j'en parle maintenant du coup. Si tu veux, dans la loi du mariage pour tous, je me suis aperçue quand j'en parlais un petit peu que ça allait être voté, que ça venait d'être voté les premières années, les gens ignoraient totalement que pour pouvoir être parent à part entière de son enfant, la mère non biologique devait se marier, passer devant notaire, faire tout un dossier très complexe avec des photos, des lettres justifiant qu'elle était là depuis le début, la conception, etc. Et qu'il y avait toute une procédure d'adoption avec enquête de police et que l'adoption n'était prononcée que au mieux 6 mois, au pire 1 à 2 ans après la naissance de l'enfant. Donc d'un point de vue du contrôle de la filiation, c'était quelque chose de très lourd. Et par ailleurs, l'insémination avec donneur anonyme était totalement interdite en France. Donc les femmes sont allées la plupart du temps au Danemark, en Belgique, en Espagne, dans les pays limitrophes, qu'ils faisaient de manière facile. Et toutes les raisons invoquées par le comité d'éthique étaient vraiment intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait même des hommes avec qui j'ai parlé qui étaient énervés parce qu'ils ne pouvaient pas donner aux sécos, parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes eu d'enfants. Il fallait déjà avoir eu des enfants pour pouvoir être donneur dans le cadre légal en France. Donc ça, c'était aussi quelque chose, dans les deux sens, il y avait une forme de discrimination et de contrôle de qui pouvait être donneur ou receveur ou réceptrice. Et bref, donc pour aller jusqu'au bout de cette idée de la loi qui contrôle, donc le 31 août 2021, c'est ça, a été votée la loi qui permet donc aux mères qui ont fait une insémination avec donneur anonyme et qui ont une preuve écrite comme quoi elles sont allées dans une clinique, que ce soit à l'étranger ou en France, puisque c'est devenu autorisé à partir de ce moment-là, de pouvoir faire une déclaration de maternité, de reconnaissance préalable, anticipée. Voilà. Donc la déclaration de naissance sans tout processus d'adoption devient possible dès lors où il y a la preuve qu'il y a un donneur anonyme. Dès lors où il n'y a pas la preuve d'un donneur anonyme, c'est-à-dire des femmes qui l'ont fait avec un ami, peu importe qui, enfin voilà, quelqu'un qu'elles connaissaient ou pas, mais en tout cas pas un don anonyme, à proprement parler par clinique, doivent toujours refaire tout ce processus d'adoption. Et donc, c'est dans ce contexte, si tu veux, c'est vraiment… C'est d'autres problématiques pour la GPA. Hein. Je n'aborde pas du tout la GPA parce que c'est totalement différent comme type de problématique. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a aussi cette volonté de contrôle du corps des femmes. Parce que dès lors où il y a un potentiel géniteur, en fait, il faut que la possibilité soit conservée. D'être dans un cadre légal, quel qu'il soit. Alors qu'on n'a jamais demandé aux hommes qui se déclaraient pères de prouver leur paternité depuis que l'humanité a fait ces lois-là, hein, les lois du mariage, etc. C'est-à-dire qu'un homme qui se marie avec une femme, par définition, est le père de l'enfant. et bon, on sait que c'est pas vrai, mais que ça a été beaucoup utilisé justement pour protéger des enfants à naître, des femmes mères, etc., des femmes filles, comme on disait. Mais bon, donc il y a un processus inversé de contrôle qui est vraiment intéressant à mettre en regard d'un côté et de l'autre avec cette question du mariage pour tous, et qui passe par il faut qu'on sache comment les enfants sont conçus et s'ils ont un père ou pas, et comment, voilà, et de contrôle vraiment sur ça. Donc après...
Sauf que le père en question, pater semper inquer tous est, avant les tests biologiques, de son point de vue donc phénoménologique ou patriarcal, ce qu'on voudra, ou personnel, lui n'est jamais sûr que c'est son enfant.
D'où le contrôle du corps des femmes aujourd'hui, bien que, oui. Tu vois, il y a une espèce de revanche, quelque part. Enfin, mais pas aujourd'hui, mais il y a toujours eu ce...
Non, mais c'était moins dissymétrique que... C'était dissymétrique en droit et en idéologie, mais en réputation, ça n'était pas.
Justement, ouais. Oui, parce que c'était toujours les femmes qui... Ouais. qui douillaient. Ça a toujours été le cas, ça. Alors... donc juste
il portait les cornes, l'andouillé, c'est l'andouillé, il le douillait et l'andouillé.
Ouais, il faisait pas aussi porter les cornes à leurs femmes sans grand problème. Hein. Alors donc juste, je reviens à mon petit mouton pour ouvrir un peu, parce que c'est ce que je disais, j'ai eu cette bourse pour ouvrir mes recherches et aller en Inde et en Angleterre, donc j'ai quand même recueilli quelques éléments, et par rapport à ce corpus, c'est aussi une vision un peu ouverte, donc pour vous partager quelques éléments rapidement. Donc sur cette idée de Legal Consciousness Studies, apparemment c'est né dans les années 80 aux États-Unis, et donc c'est cette idée que le droit consiste en un répertoire complexe, je lis, hein, de significations et de catégories qui sont comprises différemment par les gens en fonction de leurs expériences et de leurs connaissances du droit. Les manières dont les gens comprennent et utilisent le droit, je l'appelle leur conscience du droit. La conscience est ce que les gens conçoivent comme la manière naturelle et normale de faire les choses, les formes habituelles de leurs paroles et actions et le sens commun qui fondent leur façon de comprendre le monde. Elle est incorporée dans la connaissance pratique et se développe à travers l'expérience individuelle, une expérience qui prend place dans des structures qui définissent la vie des individus. Et là, pour moi, c'est très clairement, par exemple, ce que j'explique sur président ou directeur, directrice. C'est ça, c'est-à-dire que je fonde là-dessus mes recherches. C'est très empirique, mais c'est ça, c'est par rapport à ça. Mais elle change avec des expériences contradictoires. Les gens s'interrogent sur ce qu'ils font et modifient leur comportement. Oui, pardon, sur ce qu'ils font et modifient leur comportement s'il apparaît que leur façon de faire ne marche pas ou contredit ce qui leur arrive. La conscience du droit est exprimée par l'acte d'aller au tribunal tout autant que par le discours tenu à propos des droits et du sentiment d'être autorisé par le droit. Car le droit fournit un ensemble de catégories et de cadres à travers lesquels le monde est interprété. Donc ça, c'est vrai. Les mots et les pratiques légales sont des construits culturels qui ont des significations puissantes, non seulement pour ceux qui sont formés au droit ou qui l'utilisent de façon routinière, mais aussi pour les personnes ordinaires. Cette accumulation historique, intriquée et plus ou moins contradictoire de règles, de sanctions, de catégories, de comportements qui reflètent les notions mouvantes de crime, de cause du comportement individuel, de responsabilité de l'État pour la vie sociale, etc., fournit de multiples opportunités pour des interprétations et des contestations. Donc ce en quoi on est. La conscience décrit ainsi la compréhension par l'individu de son monde, un processus actif au cours duquel la personne utilise la catégorie culturelle pour construire une conscience de soi. Donc il y a la question de la conscience de soi à travers le droit, et justement il me semble que pour les femmes, cette question se pose beaucoup plus que pour les hommes, précisément. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'identité et de construction de place pour les femmes qui est spécifique face au droit. Et c'est pas que en France. C'est là-dessus que voilà. Donc là, j'avais fait un petit point, mais je vous ai déjà tout dit. Donc pour vous présenter ça, donc je vais juste vous montrer cette photo pour vous montrer à quel point il y a une contextualisation. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise dans un centre médical normal où tout venait pour différentes questions. Et donc là, c'est en tamoul. Et là, donc, la détermination du sexe, c'est à Pondichéry, hein, c'est à Pondichéry cet été, la détermination du sexe de l'enfant non-né est punissable par la loi. Donc, en fait, ce que dit juste le texte, c'est que le diagnostic prénatal sur lequel travaille, entre autres, Lucas, donc je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas là, mais on en avait déjà parlé, je lui dis que ce serait intéressant de discuter de ça ensemble, est totalement interdit en Inde. Alors, on peut se dire, nous, de notre point de vue occidental, si on ne sait pas, on peut se dire que c'est pas juste, que c'est quelque chose qui porte préjudice aux femmes, etc. En réalité, non. C'est pour protéger les femmes, parce que quand elles ont un diagnostic prénatal qui montre que c'est une fille, il n'est pas rare, dans n'importe quel milieu, quel qu'il soit, que la belle famille, la belle-mère en particulier, fasse pression pour qu'elle avorte, afin d'avoir un mâle. Et donc, c'est vraiment pas bon être une femme en Inde dans de multiples endroits. Et donc, voilà, donc c'est vraiment intéressant parce que nous, on voit ça, bah, si on ne connaît pas les pratiques indiennes, on a du mal à comprendre. Donc, c'est vraiment une question. Là, il y a une loi qui a été faite pour protéger la mère et l'enfant. Voilà, donc la détermination du sexe et la sélection en fonction du sexe du fœtus est une offense. Non, alors bailable, je ne sais plus ce que c'est, mais enfin, injustifiable en gros. Et voilà, on peut avoir 3 à 5 ans d'emprisonnement, etc. Alors, il faut savoir que de toute façon, il y a des familles riches qui vont procéder à ce type d'opération dans des pays voisins. Du coup. Voilà, donc ça existe vraiment dans tous les domaines de la société, dans toutes les classes de la société. Et j'avais vu un reportage au Rajasthan. C'est assez dramatique au Rajasthan parce qu'il y a une pratique qui fait qu'une femme pauvre, il y a un village entier où il n'y a que des garçons. Ils sont très fiers d'avoir des familles de garçons. Donc, ça pose un problème par rapport au mariage, à la reproduction. Il n'y a pas assez de filles. Et par ailleurs, les femmes qui accouchent d'une fille, certaines... C'est ça la pratique. On met le bébé né, une fois né, dans une boîte et on enterre la boîte dans le sable. Donc, voilà. Donc, c'est assez horrible. Et y a une omerta qui fait que les femmes ne parlent pas. Elles n'ont pas le droit de parler de ça. Donc, il y a eu un documentaire de fait où elles disent que, bon, il y a quelques-unes qui ont parlé et qui ont vraiment pleuré en parlant. Après, par rapport aux lois LGBT, juste, ça associe un autre point de vue justement sur la dimension vraiment culturelle de la loi, et j'ai trouvé ça assez fascinant, puisque du coup, je pouvais pas, on peut pas observer l'homosexualité en Inde, c'est pas quelque chose de très très observable. Il n'y a pas d'association connue, etc. En revanche, le statut de transgenre existe et est reconnu par la Constitution indienne. Donc, j'ai pu travailler dans cette direction. Mais en tout cas, la question de l'homosexualité a fait qu'un un couple de femmes qui sont toutes les deux juges à la Haute Cour de justice de New Delhi, ont fait leur coming out comme femmes et ont défendu la fin de la pénalisation de l'homosexualité en 2018 en s'appuyant sur le fait que cette loi du code pénal qui pénalisait l'homosexualité était une loi coloniale. Et donc, ça s'inscrit, la dépénalisation s'inscrit dans aussi un nationalisme croissant du pays, de l'Inde comme pays. Et donc, en gros, c'est une loi infâme, puisque c'est une loi coloniale, et donc ça n'a jamais été la loi de notre culture, et donc il faut s'en débarrasser. Et donc, c'est passé, parce que forcément, voilà. Donc voilà, donc c'est assez récent, ça date de 2018, et j'ai fait ce rapport aussi par rapport aux lois. Mais bon, pour vous donner un exemple, il y a aussi une omerta quand même qui reste. C'est pas une société libre pour autant. C'est-à-dire que c'est dépénalisé, mais on ne peut pas parler de certaines choses malgré tout. Pas d'une évidence folle. Voilà, donc c'est un peu des extraits de. Comme j'ai fait une présentation en anglais à Pondichéry, voilà, donc c'est un peu les éléments principaux que je voulais vous montrer. Bon, en Angleterre, par exemple, c'est encore autre chose. J'ai pas encore fini de creuser. J'ai recueilli beaucoup de données, mais j'ai pas encore analysé toutes mes données. J'ai fait quelques entretiens. En Angleterre, par exemple, par rapport au statut de femme qui a un enfant, l'homme, le père, a le droit à n'importe quel moment de reconnaître l'enfant ou pas. C'est-à-dire que c'est une possibilité qui lui est conservée à vie. Mais ce n'est pas une obligation, mais voilà, c'est une possibilité qui lui est conservée à vie. Donc c'est encore une autre vision des choses. Mais après, je suis prête à répondre à des questions ou à peut-être affiner sur certains arguments. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, mais par exemple, sur les mères, je suis désolée, je n'ai pas retrouvé mon corpus d'origine là pour la présentation, mais par exemple, sur les noms, parce que je vous ai parlé des noms, donc dans un des entretiens que j'ai fait, c'était deux femmes et trois enfants, avec deux types de conceptions différents. La mère que j'interrogeais expliquait qu'elle avait une première fille, je crois que c'est elle, enfin peu importe, c'est pas la peine de lire, je vous expose la chose. Elle avait une première fille avec un homme, un ami, qui avait reconnu aussi sa fille, donc elles étaient un couple, alors qu'elle était en couple avec sa compagne. C'était avant le mariage pour tous. Donc sa fille portait le nom, son nom à elle et celui de son père, le géniteur. Et qu'elle voyait, qui était présent. Et donc, sa compagne avait une place aussi, quand ils habitaient ensemble. Et ensuite, sa compagne a eu des jumeaux, deux fils, avec une insémination artificielle. Elle a donné les noms à ses jumeaux. Elles se sont mariées. Mais par exemple, elle n'a pas, la compagne n'a pas changé de nom en se mariant pour essayer de mettre le nom de sa fille aussi à coller, parce qu'elle avait déjà deux noms, celui de son père et de sa mère. Donc elle ne pouvait pas avoir trois noms. Elle ne se voyait pas renoncer à une partie du nom de son père ou de sa mère parce qu'elle les aurait froissés. Et ça, c'est quelque chose qui a pu se reproduire dans d'autres entretiens, c'est-à-dire que la mère. Biologique ou l'autre mère ne peut pas renoncer à une partie de son nom pour prendre le nom de son enfant adopté parce qu'elle a déjà un double nom qui est celui de sa famille elle-même. Donc, on ne peut pas avoir trois noms. Donc, ça implique qu'il y a toujours un moment où il y aura un renoncement. Et la plupart des familles de femmes choisissent que les enfants, une fois adoptés, portent les deux noms, leurs deux noms. Donc, on peut aussi imaginer que ces enfants. Et ce serait intéressant d'avoir une suite à cette étude d'ici une vingtaine d'années, que ces enfants, quand ils vont à leur tour éventuellement se marier, peut-être, vont devoir renoncer à un nom. Celui de leur futur conjoint ou conjointe, ou celui de l'une de leurs mères. Donc, je trouve ça assez fascinant, parce qu'en fait, il y a toujours une identité qui se construit à travers la nomination, la dénomination, dans le temps, et dans une lignée familiale qu'on finit par se choisir. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'officiellement, depuis de mémoire 2005, les hommes peuvent prendre le nom de leur femme aussi en nom d'usage, c'est possible. Mais en fait, c'est très difficile. Il y a plein d'administrations qui ont du mal à le faire. Et surtout, il y a plein d'hommes qui ont du mal à le faire, il y a très peu d'hommes qui le font. Ça reste très rare. Alors que si je discute avec toutes mes amies mariées à des hommes qui ont pris le nom de leur mari, les enfants ont une vingtaine d'années maintenant, elles me disent non, moi, c'était impensable pour moi de faire autrement. Et de ne pas porter le même nom que mes enfants, par exemple. Et donc, cette question de la disparition de la femme dans la lignée, bah, c'est la même en Inde. C'est encore plus fort parce qu'en Inde, une femme qui se marie, bah, en général, souvent, elle ne peut plus revenir dans sa famille. Les parents ne veulent pas la reprendre. C'est une honte, c'est un sacrilège. Ça veut dire qu'elles sont fichues, quoi. Elles sont fichues socialement, elles ne seront plus jamais mariées, etc. Et il y a c'est très compliqué d'être une femme indépendante en Inde aujourd'hui, toujours. Donc voilà, donc ça pose cette question qui est très liée de l'identité de l'autonomie à travers le nom, à travers le fait d'être mariée, la place du mariage et de la transmission du nom dans la construction identitaire des femmes, elle est énorme. Et il y a une thèse qui a été écrite par Madame Vasseur là-dessus, sous la direction d'Irène Théry, qui a été soutenue il y a un ou deux ans. Le temps passe vite, alors je sais plus si c'est un ou deux ans. Et donc, en fait, j'insiste juste sur cette question du nom et de la dénomination, parce que c'est un fait aussi objectif, mais qui va dans la même direction que madame, mademoiselle, directrice, présidente. C'est toujours cette question de l'effacement de la femme dans la manière d'être nommée. La question du nom, de la transmission du nom. Quoi qu'il advienne, à un moment donné, la femme s'efface, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je vois qu'il est 18h22, j'ai beaucoup parlé. Je serais contente de répondre à des questions ou à des remarques ou de discuter avec vous.
Moi, j'ai eu une expérience il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est récent. J'ai acheté un bien et il se trouve que je suis veuve, mais le notaire a quand même marqué sur l'acte acheté avec donc le nom de mon mari et mon nom, puisque moi j'ai gardé mon nom, mais comme si voilà, mon mari était encore là. Donc j'ai appelé le notaire et je lui ai dit, au moins qu'il y ait un retour d'outre-tombe, je ne vois pas comment on peut acheter à deux. Donc il me dit c'est l'usage, mais j'ai dit en tant que notaire, c'est la loi, c'est pas l'usage. Mais bon, ça a été impossible à vraiment le changer, quoi, voilà. Donc c'est moi qui passais pour quelqu'un qui en kikine, quoi, parce que...
Oui. Et sur l'acte, c'est écrit comme ça sur l'acte, alors?
Mais de toute façon, je suis toujours Martine Vincent, épouse, voilà, je suis partout.
Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi j'ai eu la même expérience. Hein. En 2019, j'ai acheté un appartement avec mon mari, et j'ai demandé explicitement, j'ai dit je veux que mon nom soit mon nom, pas celui de mon mari qui apparaisse. Et la notaire m'a dit, elle était d'accord avec moi sur le fait là, mais elle n'a pas pu. Le logiciel est prévu, si on est marié par la communauté de biens, le logiciel est prévu pour que on ne puisse pas mettre le nom de la femme. Vraiment, c'est encore prévu. Alors, comme
moi,
ça.
Moi, apparaît les deux noms, mais la problématique, c'est que quand même, mon mari est décédé depuis un certain temps, un certain nombre d'années, et même si j'achète un bien, donc j'ai acheté l'année dernière, hein, donc c'est vite vu, mon mari apparaît quand même en tant qu'acheteur. Je ne suis même pas, ce n'est pas simplement Martine Vincent épouse, c'est on a, comme si on avait acheté à deux. Donc c'est quand même relativement aberrant, quoi.
Et perturbant aussi. Enfin, je veux dire, c'est...
C'est pour ça qu'en anthropologie du droit, qui n'est pas ma spécialité, mais on fait la différence entre le droit écrit formalisé, tel qu'il est... rédigé dans le code civil, le code pénal, etc., et les usages coutumiers du droit écrit, et qui sont souvent des héritages de type patriarcal, bourgeois, du 19e, etc. Déjà, c'est, Et là-dessus, ça s'ajoute le coutumier à proprement parler, puisqu'il y a un droit oral coutumier, tu ne vas pas faire ça, mais on a toujours fait comme ça, ou ça va sans dire que. Le feuilleté qu'a présenté, enfin, j'ai compris dans ce qu'a dit Béatrice, que, y compris avec l'histoire coloniale et tout, qu'il y, y a tout un feuilleté là, de, qui est soit qu'on peut dynamiter en montrant qu'il est contradictoire ou qu'il y a belligérance entre plusieurs lectures ou plusieurs usages. Mais je ne sais pas tactiquement comment il faut faire. Par exemple, je ne fais pas un contre-exposé. J'ai le carnet du monde du dimanche 16 et lundi 17 octobre. Bon. Alors, par exemple, pour le fameux kit de formation, je regarde. Hélas, est décédée Hélène de Bouillane de la Coste, née Hébert, artiste, graveur, sculpteur. Alors, par rapport à ce que disait Béatrice, j'ai eu un trouble d'être un peu intéressé, mais je me suis dit, mais c'est qui est artiste, graveur, sculpteur? Alors, graveur, ça n'existe pas. Donc, c'est violent, je trouve, pour les étudiants. Je ne les prends pas pour des innocents, mais voilà. Et après, je vous assure que c'est comme ça. Jenny Bult. Alors, ce n'est pas n'importe qui met ses annonces nécrologiques dans le monde. Hein. Il y a une sociologie aussi. La bourgeoisie étant particulièrement conservatrice sur ces sujets. Jenny Bulteau, veuve du lieutenant-colonel Vicomte Hubert de Rivière de la Mure. Ah. Et puis, la troisième, je vous assure que c'est comme ça. Madame Yvonne Cosse, née Boiteux, Sévrienne, 1944. Donc, c'est intéressant de voir que des usages scripturaux qu'on pourrait appeler coutumiers, c'est-à-dire hérités d'une synchronie passée, peuvent heurter ce qui est la loi depuis, je ne sais pas, 1789, tout sujet de la République né avec un nom et le garde. Bon. Et je ne sais pas si en termes éducatifs, ça ne serait pas intéressant de, non pas de diaboliser l'institution, ah, ils sont méchants, et de voir dans l'ordinaire des pratiques comment se jouent des affichages d'hégémonie intériorisée où publiquement on s'affiche comme étant né d'un ventre, mais avoir une définition officielle qui est celle de son mari. Oui, pardon, Marie.
Oui, mais là, par exemple, ce qui arrive à Martine, c'est extraordinaire. Alors, parce que là, c'est quoi la loi? Est-ce qu'elle est considérée mariée à jamais?
Oui.
C'est quoi la loi? Parce qu'on parlait de l'indissolubilité des liens du mariage, mais c'était l'Église.
Oui, mais moi j'ai demandé donc, si ça avait été l'inverse. Est-ce que, par oui. exemple, mon mari aurait marqué « époux, machin
ben
chouette »
Non. Attends, et alors c'était quoi? Non.
On ne m'a jamais répondu. C'est ça.
Donc, ça veut dire que, parce que là, par rapport à ce que tu dis, Jean-Marie, il est où le coutumier? Est-ce que, parce que là, c'est la loi telle qu'elle est.
C'est un usage coutumier du droit écrit. C'est un conservatisme du corps des notaires.
Non, mais est-ce que c'est pas la loi? Ben, c'est la loi telle qu'elle est. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'elle. Est-ce que. Est-ce que c'est la loi telle qu'elle est ou est-ce que c'est la loi coutumière ou est-ce que c'est le reste? Parce que ça veut peut-être dire que Martine est toujours mariée.
Voilà. Oui, mais
y compris avec un mort.
Oui, mais n'empêche que j'ai un nom. Ce nom apparaît, mais il est toujours la caution, c'est toujours la caution de mon mari, même s'il est décédé depuis longtemps, on s'en fiche.
Ça peut être par rapport aux enfants, puisqu'il y a un problème d'héritage quand tu achètes un bien.
C'est-à-dire
il y a une tension entre l'indépendance de la personne juridique, politique, à tous les sens du terme, et ces héritages-là qui interfèrent.
Je ne suis pas sûre que ce soit par rapport à l'héritage, parce que quand il y a un décès, de toute façon, il y a toujours une recherche des descendants. Donc, pourquoi là, on irait chercher le nom d'une personne qui n'est plus là?
Mais Martine, est-ce que ça m'intéresserait d'avoir au moins juste une copie d'écran, enfin, ouais, une photo de ce passage-là, enfin, justement pour le relever de mes faits de...
Et alors en plus, je ne l'avais pas vu, et c'est parce que là où j'ai acheté, enfin, le syndic m'a renvoyé un papier où c'était marqué comme ça. Donc moi je les appelais en leur disant non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais comment vous avez pu marquer ça, etc. Et ils m'ont dit c'est le notaire. Je dis non, c'est pas possible que ce soit le notaire, enfin quand même. Bon. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé le notaire. Et le notaire qui est quelqu'un de très jeune, enfin de jeune, quelqu'un de 40 ans. Mais une sociologie bourgeoise certainement, notaire de père en fils, je pense, enfin bon voilà.
Le coutumier, il est peut-être, j'en avais parlé avec Martine évidemment, on a suivi et subi les non-réponses, enfin bon, si tu permets qu'on dise on ou nous, le coutumier, il est dans l'héritage inavoué ou dénié ou inconscient de l'indissolubilité du mariage qui a un fondement religieux. Mais le droit religieux et le droit politique, là, ils sont en conflit. Il y a du droit religieux ou de la culture religieuse qui s'introduit dans le droit politique. Parce que quand tu achètes une voiture, on ne te demande pas ça. Là, c'est pour acheter un appartement, ce n'est pas pour acheter une voiture.
Okay. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas.
Émilie ?
Moi, j'écoute ce que vous dites, mais j'ai un exemple qui va un peu dans le sens que vous avez sûrement tous, que vous connaissez tous. Hein. Enfin, alors, ce que tu racontes, Martine, je l'avais vécu avec ma grand-mère, en fait, la même histoire. Donc, je connais cette histoire. Donc, c'est quelque chose, effectivement, de classique. Moi, il y a quelque chose qui, jeune adulte, m'a beaucoup interpellée. Et maintenant que j'ai 40 ans, ça m'interpelle toujours autant. Moi, par exemple, je n'ai pas de livret de famille. Donc, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Et donc, je n'ai pas de livret de famille. Ma sœur a un enfant, elle a donc un livret de famille, elle est donc détachée de ses parents. Mais moi, par exemple, je ne peux, ça m'est arrivé de devoir, quand je suis par exemple allée en Suisse, j'ai fait un contrat civil avec ma compagne et j'ai dû aller demander à ma mère, c'était très drôle, j'ai dû aller demander à ma mère mon livret de famille. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas considérée en tant que... Donc, je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple que ce que tu dis, Jean-Marie, que ce soit un mélange du religieux et du coutumier, comme tu le dis. Je pense que c'est vraiment la structure familiale dans son entier. Alors, là, d'un côté, la religion essaye de la maintenir. De l'autre, le notaire, c'est un bel exemple. Le notaire, son rôle, c'est de maintenir aussi la famille debout. Moi, par exemple, peut-être, j'ai une tante, ma tante Arlette, qui a 96 ans, elle n'a pas de livret de famille. Et elle n'a pu l'avoir que quand ses deux parents sont morts, son propre livret de famille à elle, puisqu'elle n'est pas considérée comme... avoir une vraie famille, c'est on en a besoin, c'est un document des fonds, on en a besoin. Moi, j'ai déjà eu besoin de le présenter pour faire des papiers. Il faut que j'aille demander à ma mère, qui a eu le sien à 16 ans par dérogation, puisqu'elle m'a eu, elle avait 16 ans, et donc là, elle avait une vraie famille très tôt, puisque étant mère, elle passait donc dans les camps des. Donc c'est quand même très intéressant. Pour moi, ça, c'est un peu la même chose que ce que tu décris, Martine, c'est-à-dire si tu veux être mariée ou être mère. Vous aviez déjà réfléchi à ça, de que vous n'aviez pas de, enfin, que vous devez demander la permission de, enfin, je sais pas, moi je dois demander à ma mère le livret de famille si j'ai besoin, ou à mon père, hein, je sais pas qui, si j'ai besoin de faire, voilà, des fois ça arrive de devoir produire ce document. Si j'avais un enfant, j'aurais mon propre livret de famille, je serais donc indépendante de ce point de vue-là. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, plus sur le ton de la blague, mais je connais quand même quelqu'un qui est très progressiste et qui a adopté le nom de la femme, et là pour le coup c'est la famille Giscard d'Estaing, puisque là il s'appelait Giscard mais pour avoir la particule d'Estaing, donc on est passé outre cette coutume, on est allé chercher dans une vieille tante qui s'appelait de la Tour Fondue, la particule de la Tour Fondue, et ensuite ça a été invalidé, donc une autre vieille tante qui portait le nom d'Estaing, et là dans cette famille-là, on a pu donc transférer le nom d'une tante bigote pour toute une lignée ensuite. Donc voilà, j'avais trouvé ça marrant, quand ça arrange les intérêts de la bourgeoisie, c'est possible de faire transférer ces noms.
Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est dans tout ce qu'on a, tout ce que tu nous as présenté, c'est pas la. Enfin, tu nous parles de la résistance du langage à la féminisation des termes professionnels, par exemple, mais moi, je me pose la question de qu'est-ce que ça met en danger, en fait, cette féminisation et pourquoi ça résiste. Et à mon sens, ce n'est pas tant la place des femmes que la place des mères de famille, quoi. Enfin, ou des femmes en tant qu'épouses ou des femmes en tant que mères. Parce que je pense que c'est là, en fait, c'est de ça dont on parle. Si tu es épouse, si tu n'es pas épouse ou mère, franchement, l'enjeu, il n'est vraiment pas le même. Enfin, je pense que tu ne rentres même pas dans la catégorie de l'espèce
t'es même pas une femme.
J'ai écouté hier l'émission Les couilles sur la table. Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast, oui. Les couilles sur la table.
C'est très bien.
Justement, enfin, tous les procès en sorcellerie, tout ça, ce n'était pas des épouses en général. Hein, c'était souvent des femmes.
Elles étaient rousses en plus.
Pas toutes. Mais ce que tu dis, c'est sur la maternité et ce que disait aussi Jean-Marie sur le fait qu'on ne connaît jamais vraiment. D'origine, enfin, qui est le père, on ne sait jamais vraiment, il y a toujours un doute qui peut planer, etc. Mais c'est justement là-dessus que ça porte, c'est-à-dire que c'est ça, en effet, le vrai danger, c'était la filiation, c'est la conclusion à laquelle j'arrivais dans l'article de 2017, le premier article là-dessus. Et ça m'avait beaucoup fait rire parce que dans les manifs du mariage pour tous, il y avait une pancarte qui disait Jésus est né avait une mère et deux pères.
Oui.
Ah, c'était le truc, voilà, il y avait le Saint-Esprit et Dieu, et bon, c'était une GPA, quoi. Donc,
exactement,
voilà.
La première GPA.
C'est la première GPA, et j'ai vu après en faisant une petite recherche qu'apparemment, j'ai pas poussé plus que ça, mais que dans la tradition juive, c'était assez courant les GPA en fait. Une femme de la famille, etc., porte un enfant pour une femme qui n'arrivait pas à en avoir. Voilà. Donc, il y a des traditions qui sont peut-être pas aussi. Si évidente à retracer après. Oui, c'est le plus facile. Mais bon, bref.
Est-ce qu'on peut revenir à ton premier, ta première diapo, la définition dont tu es parti?
Ouais, attends, je repartage.
Parce que je n'ai pas eu le temps de bien regarder, mais. Donc, par rapport à un point que par rapport à ce que disait Émilie, c'est droit religieux, droit politique. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur le charivari et son histoire qui réglait la relation au mort et la relation au vivant. Et dans un premier temps, c'était l'Église qui s'opposait et puis c'est l'État qui a pris les décisions. Donc il y a des imbrications entre les héritages religieux et les héritages politiques, c'est quand même pas. C'est pas un scoop en fait, mais c'est compliqué à analyser sans doute.
Ben non, ça marche pas. Pourquoi ça marche plus? Alors. Partagé. Ouais, comme ça.
On va pas, oui. Non, mais j'ai fait la
fête. Ah oui, là, ça doit marcher peut-être. Là, c'est bon?
Non.
Vous voyez ou pas?
Non. Okay, on voit l'écran.
On voit ton écran.
Oui, on voit.
En fait, on voit ton écran. Tu as partagé ton propre écran, mais tu n'as pas partagé ta présentation.
Ah, d'accord. Donc, si je bouge l'écran,
il faut que tu. Alors, si tu mets ta présentation à l'écran, on va le voir, mais tu peux aussi partager la fenêtre de la présentation.
Je ne sais pas, comme ça ne marchait pas.
Là... Clique deux fois sur le PPXT, là.
Là.
Donc, sur ton écran, présentation, discrimination, système discursif, il est ouvert ton PPT?
Ouais.
Ben, on ne le voit pas, donc ça veut dire que tu partages une autre fenêtre.
Ah.
Okay. Toi, à l'écran, dans ton écran, tu vois quoi?
Ben, je voyais ça. Mais...
Tu vois le PPT ouvert?
Ouais.
C'est bizarre, nous, on voit l'écran avec marqué la liste des...
c'est bizarre, ça marchait. Contenu uniquement, non? Qu'est-ce qu'il faut que je... Reporter, côte à côte, contenu, donc dans le son, fenêtre. Donc, si je choisis la fenêtre, normalement, présentation, discrimination, c'est normalement, c'est ça? Là, c'est bon?
Non.
Non, non, on voit ton... en fait, on ne voit pas l'écran de présentation. Tu dois avoir, tu sais, tu n'as pas une copie d'écran, tu as l'écran de présentation et l'écran de, du présentateur. Et nous, on voit l'écran du présentateur.
Donc, ça veut dire que vous voyez la vidéo dans le coin?
Non, on te voit toi et puis on voit une fenêtre Mac avec marqué jury linguistique, stage BF, stage 27 janvier 2020. Puis,
c'est super bizarre. Je n'ai pas de tout ça sur le...
Parce qu'on voit l'écran de la... En fait, il faut que soit tu fais une copie d'écran sur tes préférences d'écran.
Bon, on peut peut-être, de toute façon, on s'en souvient.
Attends,
hein.
Je vais retourner chercher.
Béatrice, j'avais deux questions en fait. Je trouvais que c'était pas mal, hein, parce que je ne sais pas à quel statut ça a dans ta recherche, mais que cette définition était assez molle, disons. Le droit consiste en un répertoire complet de significations et de catégories qui sont comprises différemment par les gens. La façon dont les gens comprennent et utilisent le droit, et puis après les formes habituelles des paroles, l'expérience individuelle, une expérience qui prend place dans les structures qui définissent la vie des individus. Je trouvais, j'ai survolé, hein, que c'était A historique, A sociologique, A anthropologique. Enfin, c'est bizarre, justement, il y a des communautés, comme tu as dit. Il y a des coutumiers. Enfin, je trouve bizarre cette façon de pas de singulariser, mais c'est flou, les gens, comme s'ils existaient hors des systèmes symboliques qui les socialisent et dont ils font un usage plus ou moins réglé, non pas par leur subjectivité, mais par leur place, leur rôle et leur statut. Ben, je ne sais pas, là, je suis un peu perturbé par cette
c'est un extrait d'article, hein, ce que j'ai fait un copier-coller de... le concept de legal consciousness chez Sally Murray, qui est une des premières apparemment à avoir théorisé ça. Mais ouais. C'est un article, là, celui de Pélis, qui fait une espèce de synthèse historique de ce que c'est, d'où ça vient, comment c'est né et ce que c'est. Oui, ça date de 2005, donc il n'est pas non plus tout récent. Il y a 17 ans.
Ouais, je ne vois pas, excuse-moi, mais la plus-value que ça apporte, hein, théoriquement, et puis pratiquement, parce qu'on est un collectif de lutte entre droit officiel et droit coutumier. Bon. Mais la question en fait que j'aimerais te poser, en toute camaraderie, hein, tout le sens du terme, c'est par quoi on commence, puisqu'on est un collectif de lutte. C'est quoi, par quoi il faut commencer tactiquement? Est-ce qu'il faut, je sais pas, c'est pas facile. Est-ce qu'il faut par exemple spécifier, moi en te lisant, en t'écoutant, j'avais pas eu l'idée avant, je me dis, bon, c'est peut-être pas très, très porteur dans le discours, mais de se défamiliariser des mots de nos propres mots, harcèlement par-ci, harcèlement par-là, en les spécifiant, harcèlement familialiste, harcèlement patriarcal, harcèlement professionnel, tu vois, trouver quelque chose qui gratouille un peu, parce que harcèlement, le spectre est tellement étendu que la compréhension devient faible finalement.
Tu sais, excuse-moi, mais en fait, en termes d'action un peu concrète, parce que tout à l'heure, j'ai évoqué la possibilité de refus de signer. En fait, ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est que tous les gens qui font partie du chahut, si elles sont d'accord, et elles sont d'accord, pourraient, à chaque fois que nous avons un texte institutionnel, un formulaire à signer qui n'est pas conforme justement à cette égalité de représentation, et non pas de genre, mais de représentation des personnes, renvoie un message qu'on aurait rédigé ensemble, qui serait celui du chahut, en disant nouveau, aux ressources humaines, balancer à la présidente, je ne sais pas, enfin, il faut décider à qui l'envoyer, avec le formulaire en question, en disant ce formulaire, nous vous rappelons, n'est pas voilà, ne comporte pas, n'est pas conforme au circulaire, à tout ce qui a été dit depuis des années sur déjà la féminisation. En fait, c'est assez déplorable, mais on est là-dessus. Et déjà, faire accepter la féminisation à nouveau, ce serait bien en termes d'action collective. Après, caractériser la question du harcèlement comme tu le proposes, justement, ça pourrait permettre de dénoncer une forme de harcèlement professionnel, ouais, de l'institution à l'égard des femmes. Et je pense que comme c'est Hélène Boulanger maintenant qui est la présidente, elle pourrait y être un peu plus sensible, puisqu'apparemment, elle a la volonté d'eux. Donc, je pense que... Moi, je me suis pas adressée à elle personnellement, je n'ai pas envie. Mais en revanche, d'un point de vue collectif, je veux bien participer à quelque chose de commun. Voilà. Je n'ai pas envie d'être stigmatisée comme personne qui fait ça toute seule dans son coin. Même si j'ai répondu à Pascal Marchand, parce que là, c'était un peu exagéré. Quoi. Mais justement, c'est faire valoir nos expertises pour ça. Quoi.
Pascal Tisserand. Tisse. Toi, tu détisses et on retisse. Pas, tu as dit Marchand.
Ah, pardon.
Ouais,
j'ai beaucoup de sympathie pour Pascal Marchand, c'est un copain.
Mais c'est un marchand d'égalité, c'est pour ça.
Ouais, voilà. C'est pas pour faire une confidence, c'est pour aller dans le sens de ce qui tourne dans notre discussion et de ce qu'a surligné Émilie, c'est le familialisme. J'ai pas de compte à régler avec ça, mais quand j'étais en activité, je sais pas comment on fait pour vérifier ça, à l'Université de Lorraine. L'Université de Rennes, par exemple, pour les ordres de mission, on demandait adresse professionnelle. Bon, ça paraissait logique. Je suis un personnel de cette entreprise. Adresse personnelle, bon, pourquoi pas. Et adresse de famille. Et chaque fois, je barrais, mais dans mon coin, tout seul. Et je ne suis pas sûr que c'était supprimé. Alors, j'argumentais que je ne voyais pas pourquoi... adresse de famille, ce que ça venait faire, c'était intrusif, que deuxièmement, la famille suppose un couple, quel qu'il soit, avec des enfants, dans la définition juridique, donc ce qui est semblant, enfin, c'était un peu ça produisait des effets de marge ou d'atypisme, ou j'ai pas d'adresse de famille, parce que j'ai pas de famille, donc on est défini par ce qui manque, bref, je sais pas ce qu'il en est advenu. Mais ce schéma idéologique de la famille comme étant la hétérosexuelle avec un enfant ou X enfants, étant comme la norme incorporée dans les protocoles administratifs de l'université, en tout cas, ça m'intéressait de le pointer. Et ça, à mes étudiants, je ne sais pas si ça subsiste, l'adresse de famille ou l'adresse de la famille. Dans le kit, on pourrait mettre des choses comme ça parce que...
Comment tu as appelé ça, le
familialisme.
Familialisme.
Ouais, comme dit Althusser, c'est un appareil idéologique d'État, donc bon...
La famille, oui.
Familialisme, enfin, je peux peut-être un peu l'appeler autrement.
Mais... Le familialisme, c'est vraiment un truc... Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai des fixations hein, mais je pense qu'il est là, le nœud. Chaque fois, je cherche le dénominateur commun entre toutes les discriminations qu'on ressent. Et franchement, le familialisme, ça, c'est, à mon avis, c'est vraiment le nœud, c'est plus, je pense que c'est plus saillant, c'est plus au cœur de ben par exemple, de ce qui tient le langage et tout ça, que les femmes en tant que femmes, ou je sais pas, je crois que c'est vraiment ça.
C'est vrai que l'idée de spécifier harcèlement familialiste, harcèlement, il faut trouver des mots qui ne soient pas trop compliqués, mais ça revigorerait, enfin je ne vais pas expliquer ça à la sémanticienne qui est Béatrice, mais bon. Voilà, la tacticienne, mais voilà.
Enfin, je crois quand même qu'il y a quelque chose comme une volonté sous-jacente d'invisibiliser les femmes quand même. Là, avec Jean-Marie, on travaille un peu sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Expérience, j'étais à Paris ces jours-ci, je suis allée chez Gibert et je lui demandais s'il y avait des livres sur... les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il me dit, oh, oui, oui, il y en a beaucoup. Alors, je lui dis, je sais qu'il y en a beaucoup sur la Première Guerre mondiale, enfin, beaucoup, un certain nombre sur la Première Guerre mondiale, mais sur la Seconde Guerre mondiale, je lui dis, ben, j'en connais pas. Et donc, il a cherché sur son ordinateur, donc apparemment, c'était le néant. Et puis, eh ben, on en a trouvé deux. Donc, la première, c'est La Tondue,
voilà.
Évidemment. Et la deuxième, Femme dans la guerre, vous voyez le sous-titre, Témoignage. Donc, c'est soit de la correspondance avec un frère qui était fait prisonnier ou qui était sur le front, etc. Mais ça ne dit pas le quotidien des femmes pendant la guerre. Et le summum, c'est quand on va sur Internet, quand on cherche les femmes en milieu rural, eh bien, on ne nous dit rien finalement sur la vie de ces femmes. Et l'image qu'on voit, c'est un homme à côté de la charrue tiré par des bœufs ou par des chevaux. Enfin bon, comme si les hommes étaient encore là. Donc, il me semble qu'il y a quand même... Alors bon, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a cette volonté de presque de nier les femmes en tant qu'acteurs, agentes, triste, agente de ce qui se passe à un moment donné, quoi.
Mais je pense que c'est, je ne sais pas si c'est une volonté, c'est, on discutait Martine, mais c'est une logique. Ce n'est pas la peine de faire, il n'y a pas de volonté. Bon, c'est un processus sans sujet. Non, mais je
discute, c'est quand même politique.
C'est une logique.
Quand même politique.
Oui, mais c'est une logique politique, une logique historique, mais. Quand on dit, Béatrice a parlé du mot effacement, le mot négation, le mot invisibilisation, mais le mot négation, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pour faire quelque chose de prise de conscience. Je l'ai noté parce que j'y pense à ce, maintenant, hein, c'est l'intérêt de l'atelier. C'est pas, ce qui est plus intéressant, ce n'est pas négation, c'est dénégation. C'est-à-dire, je vois bien que tu es une femme, mais je ne veux pas le savoir. Hein. Et donc, c'est un refoulé. Et le retour du refoulé, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a des mécanismes de refoulement et donc de sur lesquels on peut jouer. Alors que si on dit négation, invisibilisation, on a l'impression qu'il y a des méchants là, qui tirent les ficelles. Alors, il y en a des méchants, mais il n'y a pas que des méchants. Et je pense que ce n'est pas un jeu de mots que de dire, je préfère parler de dénégation ou de refoulement, avec le fait que la dénégation, c'est difficile à assumer. Parce que le déni, ça trouve assez vite ses limites, notamment si on refait, comme on a fait, le parcours historique qui a cristallisé ces logiques-là. Donc voilà.
Excusez-moi, j'étais en train de rire. Les échanges.
C'est bien. Ah, sur la guerre, on parle,
Martin. C'est une forme de guerre,
oui. Non, parce qu'il y a aussi les commentaires
démasculinisation avec le dé entre parenthèses proposé par Christophe.
Aïe, 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 oui. Ah, parce que pour la guerre, c'est
féminisation, oui.
Parce que Charlotte disait que ce serait bien de proposer reféminisation, et je lui répondais en aparté donc dans la discussion que c'était comme ça que j'avais orienté ma com à Osnabrück, là, celle que j'ai enregistrée oralement. Elle est juste très lourde, mais sinon je me ferais un plaisir de la partager, mais il faut faire un oui transfert parce qu'il y a du son de voix de qualité. J'avais fait ça à l'université. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'avais dit plutôt que de parler de démasculinisation, en fait, il faut parler de reféminisation, puisque les féminins existaient au XIVe, XVe, XVIe siècle. C'était voilà, la médecine, la diaconesse, chirurgienne, pharmacienne, enfin, c'était normal, quoi. C'est l'usage. Donc.
Pour la guerre, c'est intéressant, oui, parce qu'en fait. Soit c'est des martyrs, enfin plus ou moins, les diablesses, les tondues, soit des héroïnes de la résistance, gaulliennes ou communistes. Et entre les deux, il y a travail, famille, patrie. C'est-à-dire les femmes ont bien... Tout le monde sait que les femmes ont fait le boulot des hommes. Dans la correspondance de mon père quand transcrit, ça se voit. Mais au fond, c'était à défaut des hommes, et puis l'ordre revient, et voilà. Donc, il y a une espèce de double déni, quoi. Et non seulement elles ont fait le travail, mais après, on dit, ben oui, mais à défaut, parce qu'on n'a pas pu faire autrement.
C'est ça.
On va creuser ça.
Enfin, il y a quand même des résistances, parce que dans l'exemple dans ton article, Béatrice, sur l'exemple de Julien Aubert, là, par exemple, je veux bien qu'il y ait une logique politique, etc., bon, là, il pousse un peu loin le bouchon, quand même. Donc,
ouais, tout à fait, bah, c'est, oui, c'est de la provocation, 100%, mais... Mais enfin, après, c'est là qu'on voit la dimension idéologique. C'est-à-dire une fois que ça s'est posé, qu'on a compris que c'était idéologique, après, on réfléchit à comment déconstruire la dimension, cette idéologie pour montrer que c'est l'idéologie.
Ouais.
C'est un peu ça la question stratégique en fait. C'est travailler à. Il me semble que c'est là où on peut être intéressant et intéressante, c'est à déconstruire. Et à pointer la dimension idéologique des prises de position douteuses. Et après, aider en termes de cellules de crise, entre guillemets, pour savoir comment on répond à certains types de harcèlement sur place. Enfin, des étudiants, les étudiantes qui peuvent être confrontés à ça, comment reconnaître que c'est du harcèlement. Bon, enfin... C'est parfois très, très, très pernicieux, très compliqué. Enfin, ou sans compter les personnes qui se font harceler et qui ne veulent pas le dire pour ne pas avoir de problème.
Oui, c'est ça.
J'en ai rencontré. Donc, c'est un peu délicat.
Donc, si on résume en type d'action, enfin, en termes d'action collective, on ne sait pas du tout pour sortir du...
Non,
on a évoqué plusieurs choses en fait, et du coup, si je